un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La cérémonie doit débuter à l'instant parce qu'il avait su raconter ceux de 14 et les faire revivre dans nos mémoires. L'écrivain Maurice Genevoix entre au Panthéon. Pierre Neveu analysera le sens de cette panthéonisation. La mort du dramaturge Israël Horovitz, l'auteur de théâtre américain le plus adapté en France. Il avait écrit quelques 70 pièces de théâtre et une trentaine de scénarios pour le cinéma. La course au vaccin se poursuit. Après l'annonce par Pfizer d'un vaccin contre le Covid-19 efficace à 90%, la Russie réplique que le sien l'est encore plus. Nous irons à Moscou. Au Japon, un réacteur nucléaire affecté par le tsunami de 2011 obtient aujourd'hui l'autorisation de redémarrer. À Fukushima, en revanche, la centrale doit être entièrement démantelée. Notre correspondante au Japon est allée suivre les travaux qui s'y déroulent, des travaux pharaoniques et dangereux. Hommage appuyé aux poilus en ce 11 novembre. La commémoration du 102e anniversaire de l'armistice s'accompagne cette année de la panthéonisation de l'écrivain Maurice Genevoix qui avait raconté le quotidien des soldats de la Première Guerre mondiale, Pierre Neveu.
Le symbole est fort. 100 ans jour pour jour après l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, le président de la République rend hommage aux combattants de la Grande Guerre. Ces héros qui n'ont jamais flanché dans l'épreuve, des héros à hauteur d'homme, souligne l'Élysée. Et parmi eux, Maurice Genevoix, témoin de ces combats de tranchées, meurtri dans sa chair. Avant de reposer au Panthéon, les cendres de l'écrivain ont fait un dernier voyage aux Éparges, dans la Meuse, là où il a failli perdre la vie en avril 1915, puis à l'École normale supérieure à Paris, là où il a commencé l'écriture de Sous Verdun, le premier récit de son œuvre emblématique, ceux de 14, qui sera tout à l'heure exposé aux côtés de l'étendard du 106e régiment d'infanterie, le régiment du sous-lieutenant Genevoix qui porte, cousu en lettres d'or, l'inscription « Les Éparges 1915 ». Ces 3 mois de résistance héroïque, au prix de terribles pertes sur cette commune de la Meuse, c'est cet esprit de résilience qu'Emmanuel Macron va une nouvelle fois invoquer dans son discours, cette capacité qu'ont les Français à surmonter les tragédies de l'histoire, comme aujourd'hui les attaques terroristes et l'épidémie de coronavirus.
Et en même temps que Maurice Genevoix, entre au Panthéon des œuvres d'art contemporain commandées par l'Élysée pour la circonstance. Il s'agit de 6 sculptures d'Anselm Kiefer et d'une œuvre musicale. Cette composition signée Pascal Dussapin repose sur des chœurs mixés et des comédiens ont enregistré 15 000 noms d'hommes et de femmes représentatifs des morts de la Grande Guerre. L'œuvre est diffusée via quelques 70 haut-parleurs. Le président du Centre des Monuments Nationaux évoque cette commande artistique publique pérenne au micro de Benoît Grossin.
Les 6 vitrines contenant des sculptures restent au Panthéon, de même que l'œuvre de Pascal Dussapin
qu'on entend
sera diffusée par un intervalle régulier pendant la journée, ce qui fait que tous les visiteurs du Panthéon en entendront au moins un fragment. Et je pense que cette œuvre très forte, qui se déploie complètement dans la nef du Panthéon, cette œuvre comptera pour beaucoup dans l'expérience des visiteurs au Panthéon.
Les œuvres permanentes qui sont contemporaines dans un palais très ancien.
Oui, mais l'œuvre de Bouchard, quand elle a été créée, elle était aussi contemporaine, comme l'œuvre de Landowski ou comme l'œuvre des peintres d'histoire, Puvis-Chavannes, Lorenz, De Taille, Roche-Grosse, etc., ou Léon Bonnat, qui sont présents ici. Si vous voulez, c'est ça la continuité de l'histoire. Mais enfin, ce qui est certain, en tout cas, c'est que avec cette œuvre, qui n'est pas un fond sonore, qui n'est pas une musique d'illustration, mais qui est véritablement une musique de création et une musique de commémoration, oui, la musique entre par la grande porte au Panthéon ce 11 novembre.
Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux, et sur franceculture.fr, vous pourrez lire un article de Benoît Grossin à ce sujet, avec un entretien avec le musicien Pascal Dussapin. Alors que des diplomates occidentaux se rassemblaient pour commémorer l'armistice, le cimetière non musulman de Jeddah en Arabie Saoudite a été visé par un attentat. Au moins 2 personnes ont été blessées. C'est la 2e attaque en 2 semaines à Jeddah. Un garde du consulat de France avait été agressé au couteau le 29 octobre, peu après les déclarations d'Emmanuel Macron sur le droit à la caricature. Le dramaturge Israël Horovitz a succombé à un cancer à 81 ans. C'est l'auteur de théâtre américain le plus adapté en France. Il avait notamment écrit « Très chère Mathilde » en pensant à Lynn Renault qui avait joué ce rôle au théâtre Marigny. Israël Horovitz avait aussi écrit une trentaine de scénarios pour le cinéma. Et en 2015, il était venu à France Culture parler de son premier film « My Old Lady », une adaptation justement de « Très chère Mathilde », extrait de « La grande table » de Caroline Brouet avec une traduction assurée par Xavier Combes.
Je suis né dans un tout petit village dans le Massachusetts. Mon père, dans mon enfance, travaillait comme routier, comme chauffeur de camion. So, for me, I have déjà 50 pièces. I've had 50 plays translated.
50 pièces traduites et jouées en France.
C'est ma vie française. Pour moi, c'est un, à mon avis, c'est un sort de miracle.
Beckett, Samuel Beckett et Eugène Ionesco, comment les présenteriez-vous? Qu'ont-ils représenté pour vous?
Je pense que dans cette vie, nous avons des paires de chance, notre vrai père, et des paires de choix.
Ah, le père biologique,
ouais.
Le père qu'on ne choisit pas.
And the people we choose
et
to
alors
be
qu'il y a des pères spirituels que l'on choisit.
Ouais. And for me, I really chose
et moi,
Beckett.
J'ai choisi Beckett.
My father was chauffeur de camion.
Mon père, je vous l'ai dit, était chauffeur de camion.
And very difficult.
Un homme assez dur.
And Beckett was.
Beckett, lui,
was very open.
C'était
and
un homme l'esprit très ouvert.
Sont des enfants. He had no children.
Il n'avait pas d'enfants.
So he was very welcoming.
Donc Beckett m'a pris sous son aile.
I miss him.
Et il me manque.
Israël Horovitz, qui avait reçu de très nombreuses distinctions, selon mon tableau, plusieurs accusations d'agression sexuelle en 2017 dans le sillage de l'affaire Weinstein. Le dépouillement des résultats de l'élection du 3 novembre se poursuit aux États-Unis et Donald Trump est à présent donné vainqueur en Alaska. Mais ce gain de 3 grands électeurs ne change pas la donne. Le démocrate Joe Biden reste le président élu des États-Unis. Il a pour l'instant 279 grands électeurs contre 217 pour le président sortant. Le parti démocrate garde le contrôle de la Chambre. Reste un doute sur le contrôle du Sénat. Tout dépendra des résultats définitifs de Géorgie qui ne seront connus qu'en janvier. Comme Donald Trump, Marine Le Pen refuse encore de reconnaître la victoire de Joe Biden. Pour la présidente du Rassemblement national, il faut attendre avant de se prononcer. Et elle dénonce l'unanimité médiatique et politique autour de l'annonce de sa victoire. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Aurélie.
Comment expliquer cette posture de Marine Le Pen, Antoine ?
Eh bien, si l'on en doutait, on en a désormais la confirmation. La défaite de Donald Trump est une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. Les spécialistes certifient la victoire de Joe Biden, les médias américains aussi, y compris la très conservatrice chaîne Fox News. Alors pourquoi nier ce qui semble désormais évident? Donald Trump a perdu l'élection. Faut-il y voir une forme de solidarité au sein de l'international populiste ou à défaut des intérêts communs? Car oui, d'une certaine façon, Donald Trump a pu représenter une sorte de modèle pour la candidate à la présidentielle. Ils ont des points communs, le protectionnisme, le refus de l'immigration, un certain sens de la subversion, mais ils ont aussi des différences. D'abord, Donald Trump a gagné la présidentielle, pas Marine Le Pen. Au-delà des différences de scrutin, un seul tour aux États-Unis favorisant le bipartisme, système de vote indirect, État par État, qui a permis à Trump de remporter la présidentielle de 2016 sans avoir une majorité des suffrages populaires. Eh bien, au-delà de ces différences entre les États-Unis et la France, Donald Trump a su dépasser son électorat populiste, rassurer l'électorat conservateur et même agréger des immigrés d'origine cubaine effrayés par le mot socialiste. Marine Le Pen n'a pas su réunir en 2016, au second tour, une majorité des électeurs qui avaient voté François Fillon au premier tour. Elle a gagné l'électorat ouvrier, mais pour l'électorat bourgeois et diplômé, elle reste un repoussoir. Marine Le Pen a échoué en 2017, là où Donald Trump a réussi en 2016, et elle est sans doute en train de se dire qu'il sera d'autant plus difficile de réussir en 2022, là où il a échoué en 2020.
Antoine Marette, pays le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, les États-Unis comptent environ 240 000 morts liés au Covid-19. Joe Biden fait de la lutte contre le virus la priorité numéro 1 de son futur mandat, mais pour l'instant, Benjamin Ely, les chiffres flambent.
Les chiffres donnent le tournis. Plus de 10 millions de cas recensés, plus de 240 000 morts et une tendance alarmante. Avec ce record d'infection en une journée, près de 202 000 personnes touchées par le virus en 24 heures, 1 500 morts en un jour. La barre des 100 000 cas quotidiens est largement dépassée depuis une semaine. Au moins 35 États voient la courbe des contaminations repartir brutalement à la hausse. Les hospitalisations battent là encore des records. 62 000 personnes concernées, du jamais vu depuis la confirmation d'un premier cas fin janvier sur le sol américain. Les États du Nord et du Midwest sont submergés. Dans le Wisconsin, le gouverneur démocrate de l'État, Tony Evers, implore sa population pour qu'elle reste confinée. Wisconsin, c'est sérieux. Ce n'est pas sûr de sortir, ce n'est pas sûr d'inviter d'autres personnes. Les prédictions de Joe Biden semblent se confirmer, lui qui a annoncé lors du dernier débat face à Donald Trump le 22 octobre un hiver sombre. Mais il y a l'annonce en début de semaine d'un vaccin efficace à 90%. Le gouvernement américain a signé un contrat de près de 2 milliards de dollars avec le laboratoire Pfizer pour la livraison de 100 millions de doses si le vaccin est approuvé. L'objectif est de commencer à vacciner les personnes vulnérables avant la fin de l'année.
Benjamin Ely à New York. Et la mise au point de ce vaccin contre le Covid donne lieu à une grande course des labos. Après les annonces de l'américain Pfizer, ses rivaux se manifestent. Moscou annonce que son vaccin Sputnik V est fiable à 92%, soit 2% de plus que Pfizer. Mais la faiblesse des données disponibles incite à la prudence. Jean-Didier Revoin.
En matière de vaccin contre le coronavirus, la Russie reste déterminée à faire la course en tête. Pour preuve, l'annonce faite aujourd'hui de la meilleure efficacité du vaccin russe Sputnik V par rapport à celui qu'a présenté le géant pharmaceutique américain Pfizer lundi. Une annonce qui a contraint Moscou à réagir puisque les développeurs du vaccin russe ont annoncé que leurs données seraient publiées prochainement dans l'une des revues médicales internationales de référence et analysées par des pairs. Pour l'heure, la Russie a déjà fourni des données à l'Organisation mondiale de la santé, mais dans un but spécifique, obtenir un enregistrement accéléré et une préqualification du vaccin. Moscou a également annoncé que la phase de test clinique serait prolongée de 6 mois dans le but de récolter davantage de données, mais à l'heure actuelle, officiellement, la substance n'a pas d'effet secondaire et les autorités ont prévu de commencer à vacciner la population en début d'année prochaine. Pour assurer la promotion du vaccin, des personnalités comme l'une des filles de Vladimir Poutine, le ministre de la Défense ou le maire de Moscou se sont fait vacciner. Alors, si tout se déroule comme c'est annoncé, ce serait l'occasion pour la Russie de montrer qu'elle dispose du savoir-faire et des technologies nécessaires pour produire un vaccin. Ce serait aussi l'occasion de replacer la Russie sur la carte mondiale de la recherche, un peu comme le pays a fait son retour sur la scène internationale. Preuve de cette soif de reconnaissance, deux autres vaccins russes contre le Covid-19 doivent entamer des phases de test dans les semaines à venir.
Jean-Didier Revoin à Moscou. Et les essais cliniques du vaccin développé par le laboratoire chinois Sinovac ont repris au Brésil. Pour sortir de la crise sanitaire et économique occasionnée par le Covid-19, les pays développés dépensent des milliards de dollars. Mais l'OCDE s'inquiète pour les pays pauvres. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, ils sont confrontés à un risque d'effondrement des financements privés externes et une crise de la dette se profile. Les pays pauvres et en développement sont confrontés, Marie Vienno, à ce qu'on pourrait nommer un double effet ciseau.
Oui, l'effet ciseau, c'est quand les recettes baissent et que les dépenses augmentent. La crise du Covid a cet effet sur toutes les économies du monde et donc aussi des pays pauvres. Mais ces derniers sont plus que nous dépendants des investissements privés dans leur économie et des capitaux publics via l'aide au développement. Or, côté financement privé externe, il devrait baisser de 700 milliards de dollars en 2020, selon l'OCDE, 60% de plus que ce qui avait été enregistré pendant la crise financière mondiale. À cette chute, il faut en plus ajouter la baisse de 20% des transferts de fonds envoyés par les travailleurs émigrés. Côté aide publique au développement, l'OCDE juge que ce type d'aide pourrait être mise à rude épreuve à l'avenir. Alors, sachant que ces pays pauvres ou à revenus intermédiaires n'ont pas, comme nous, des banques centrales ou des marchés financiers confiants qui peuvent financer leurs déficits, des crises de la dette ne sont pas à exclure, juge l'OCDE, d'autant plus qu'il y a un an, donc avant la crise sanitaire, plus de 30 pays à faible revenu étaient déjà proches ou en situation de surendettement. En 2019, il manquait déjà 2 500 milliards de dollars dollars pour financer les objectifs de développement durable définis par l'ONU en 2020, compte tenu de ce double effet ciseau. Donc il en manquera 1 700 milliards de plus. Cela paraît beaucoup, mais c'est peu au regard des 378 000 milliards de dollars d'actifs financiers actuellement en circulation, note l'OCDE.
Autre inquiétude formulée par l'OCDE, que les investissements favorisés par l'aide au développement ne financent des projets incompatibles avec le développement durable et la lutte contre le changement climatique, Marie.
Oui, en 2017, l'aide au développement a beaucoup financé des activités liées aux combustibles fossiles, note l'OCDE, et ce serait regrettable qu'il n'y ait pas d'évolution à ce sujet. La finance durable a le vent en poupe, mais l'OCDE rappelle que c'est un marché immature. Les initiatives pullulent, il y en a 115 en ce moment et 8 de plus chaque année. Donc, sans normes communes, il est absolument impossible d'évaluer l'incidence de ces investissements dits durables sur les individus et la planète. Du coup, il y a donc un risque le soutien affiché aux objectifs de développement durable ne soit que de façade, écrit l'OCDE, alors que les banques publiques d'investissement du monde entier sont réunies en ce moment à l'initiative de la France pour un sommet intitulé « La finance en commun ». Le rappel de l'OCDE tombe à point nommé.
Merci Marie Viennot. Nicole traître, Nicole dégage. Malgré l'interdiction des autorités arméniennes, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Erevan, réclamant la démission du Premier ministre. La tension monte en Arménie depuis le cessez-le-feu au Haut-Karabakh, qui entérine la rétrocession de vastes territoires à l'Azerbaïdjan. Reportage d'Anissa El-Jabri.
Des policiers qui fondent dans la foule embarquent des organisateurs et des porte-paroles du mouvement à peine la manifestation commencée. Et au même moment, sur les téléphones scrutés par les contestataires, cette nouvelle qui tombe, un leader de l'opposition interrogé par les services de sécurité. Microphone à la main, sur les marches de l'opéra, une femme harangue la foule.
Le Premier ministre a fait arrêter l'un des nôtres. Il a vendu le Haut-Karabakh. Il a vendu nos terres, nos églises. Il a tout lâché à l'ennemi.
Traître, démission, crie la foule au milieu. Andranik, 63 ans, vétéran de la guerre d'indépendance du Haut-Karabakh dans les années 90. Deux fils enrôlés dans le conflit qui vient de se terminer. L'un des deux qui en est mort.
Pachinian est planqué dans un bunker et il se permet de parler de nos soldats. Comment peut-il prétendre diriger l'armée? En plus, il n'a jamais fait la guerre. Ce n'est même pas un vrai mec.
Tôt dans la matinée, l'armée a pourtant bien essayé de défendre le Premier ministre. La fin de la guerre était une nécessité absolue. C'est signé du porte-parole de l'état-major.
Anissa El-Jabri, correspondante de RFI en Arménie. Le Japon, qui compte atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, veut augmenter pour cela la part de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, l'un des réacteurs endommagés par le tsunami de 2011 a reçu une autorisation de redémarrage. Il est situé à Onagawa, à 340 km au nord de Tokyo. En revanche, les réacteurs des deux centrales les plus abîmées, Fukushima Daiichi et Daini, doivent être démantelés au prix de travaux interminables et de risques importants pour la santé des milliers d'ouvriers. Notre correspondante Karine Nishimura s'est rendu la semaine dernière à Fukushima, dans le nord-est du Japon, pour voir dans quelles conditions se déroulait le chantier.
Ce qui est frappant à chaque visite dans cette centrale ravagée, c'est l'apparente sérénité des travailleurs. Ils sont entre 3000 et 7000 à œuvrer quotidiennement dans cet immense chantier. Ils déblayent, bétonnent, pompent de l'eau, construisent et démontent des réservoirs d'eau, gèrent des monceaux de tenues de protection. Il faut aussi s'occuper des déchets radioactifs et de la cantine. Il y a 6 réacteurs, dont 4 dans un piteux état. Le combustible fondu est toujours à l'intérieur. Des radiations très fortes s'en dégagent, explique un employé de la compagnie TEPCO.
Il y a des endroits où les radiations sont si élevées qu'on ne reste que 10 minutes.
L'intérieur des réacteurs est bien sûr inaccessible pour l'homme et partout sur le site, les ouvriers équipés de compteurs de doses de radiation doivent être très vigilants.
On ne peut pas éviter les radiations. Les tenues de protection agissent contre les poussières radioactives, mais pas contre les rayons. C'est en limitant le temps sur place qu'on régule la dose reçue. Pour chaque tâche, on doit évaluer au préalable la dose de radiation, puis fixer une méthode de travail pour la minimiser.
Il y a désormais sur place nombre de femmes et jeunes ingénieurs et ouvriers, souvent originaires des environs. Ils vivent séparés de leur famille, motivés par la volonté de contribuer à la renaissance de la région. Ils sont employés par TEPCO ou des sous-traitants pour des tâches en partie ingrates et dangereuses. Ici, c'est un ouvrier de la société Taïsé.
Là, dans cette zone, il y a 49 réservoirs. 24 doivent être démontés en les décontaminant au laser.
Depuis 2011, sur des dizaines de milliers de travailleurs de la centrale, seulement 6 cas de cancer ont officiellement été reconnus comme dus aux radiations. Mais la justice est saisie dans divers autres cas, reconnaît un autre responsable de TEPCO.
Il y a des procès en cours de personnes disant avoir été irradiées sans le savoir. Il est difficile d'établir le lien direct entre une maladie et les radiations, mais le ministère de la Santé a des critères assez larges. Les deux employés qui ont subi les plus fortes radiations en 2011 sont vivants. Ils travaillent toujours, pas à la centrale, mais dans un autre service.
De nombreuses dispositions ont été prises pour améliorer les conditions de vie et minimiser les risques d'incidents dans l'enceinte de cette centrale. Mais tout y est défi, car tout est inédit, résume un travailleur. Un des plus gros problèmes sur le site concerne l'eau contaminée qu'il faut traiter et stocker. Et le plus difficile sera d'extraire le combustible nucléaire fondu des réacteurs 1 à 3, une tâche pour laquelle les techniques restent à inventer. Le chantier va durer encore 30 ou 40 ans au moins.
Karine Nishimura à Fukushima pour France Culture. Le temps prévu demain, de faibles pluies toucheront en matinée Champagne-Ardenne, Bourgogne, Centre et Poitou-Charentes. Ciel bien dégagé sur une bonne moitié sud, il fera de 6 à 13 degrés le matin, maximal 13 à 22 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.